Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Les deux dimensions du schisme entre Orient et Occident. Nous nous acheminons vers la conclusion du cycle d'entretien sur les conciles écuméniques du premier millénaire de l'Église. Ce cycle, je le rappelle, devait se limiter au départ au concile écuménique au sens strict, c'est-à-dire aux sept premiers, qui vont de Nicée I à Nicée II, et du 4e au 8e siècle. Mais il n'était pas possible de faire l'impasse sur les événements qui ont conduit à la séparation progressive entre l'Orient et l'Occident, car cette séparation s'amorce déjà très tôt, tout au long de l'histoire des conciles de l'Église indivise. Elle s'amorce dans le rôle peu glorieux que joue l'empereur Théodose II dans le brigandage d'Éphèse, dans la manière indigne dont l'empereur Justinien a traité le pape Vigile, le laissant même condamné par le deuxième concile de Constantinople, dans la déportation, la condamnation et la mort en martyr du pape Martin Ier avant le troisième concile de Constantinople, dans l'imbroglio autour du concile Quinisexte de 691-692, non reconnu par l'Église catholique parce qu'il confirmait le 28e canon de Chalcédoine, accordant à Constantinople le deuxième rang après Rome. Dans l'incompréhension, enfin, de la cour de Charlemagne, à propos de la vénération des icônes, à cause d'une traduction déficiente du verbe grec que les latins interprètent comme un verbe d'adoration. Dans la très grave crise provoquée par la controverse autour du patriarche Phocius, dans le refus des orientaux de reconnaître le quatrième concile de Constantinople et dans l'assassinat du pape Jean VIII. Cela fait une somme impressionnante de conflits qui ont instauré une méfiance réciproque jusqu'à aboutir aux anathématismes de 1054 entre le cardinal Humbert et Michel Cérulaire. La déchirure entre Rome et Constantinople est verticale. Un demi-millénaire plus tard, elle sera suivie d'une déchirure horizontale entre le nord et le sud de l'Europe, la déchirure de la Réforme. Il n'est pas anodin de constater que ces deux déchirures, verticales et horizontales, reproduisent les deux bras de la croix. Qui d'autre que le Christ attaché à la croix pourrait nous amener à les surmonter? N'a-t-il pas d'ailleurs lui-même, à la veille de sa passion, prié son Père pour l'unité de ses disciples? « Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé » et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est au chapitre 17 de saint Jean. Cette unité ne se fera certainement pas par un simple retour à l'Église catholique de ceux qu'on appelait jadis les frères séparés, ni même par des accords théologiques qui surmonteraient les différences pour aboutir à des formulations de foi identiques. On parle désormais beaucoup plus d'un consensus différencié, c'est-à-dire d'une communion dans la foi qui prendra soin de faire droit aux accents différents apportés par les diverses confessions chrétiennes et aux richesses propres dont chacune a hérité. Sur le contenu de la foi chrétienne, nos points de divergence avec les églises de la communion orthodoxe sont mineurs si on les compare avec ceux qui nous séparent des communautés protestantes. Nous partageons avec les orthodoxes la foi aux sept sacrements institués par le Christ et en particulier la conviction qu'il a voulu un sacrement de l'ordre distinct du sacerdoce commun des baptisés. Notre foi eucharistique, qui découle en grande partie de la foi au sacrement de l'ordre, est identique de part et d'autre. Les divergences sur l'Assomption de la Vierge Marie et sur la question du purgatoire pourraient être clarifiées sans grande difficulté. Mais la question la plus délicate, comme nous l'avons vu, demeure celle du pape, évêque de Rome et successeur de Pierre, et du degré d'autorité que tous acceptent de lui reconnaître. Comme nous l'avons vu également, cette question est étroitement liée aux malentendus et aux conflits qui ont émaillé les relations entre les deux poumons de l'Église, comme les appelait le pape Jean-Paul II. C'est pourquoi nos réflexions tout au long de ces entretiens ont fait une large place à l'histoire. J'ai essayé de montrer que la date de 1054, retenue comme date de rupture à cause des condamnations réciproques, était une date plus symbolique que décisive. L'Église d'Orient et d'Occident sont plutôt comme deux embarcations qui auraient coupé les amarres, qui les reliaient et qui se seraient éloignées progressivement l'une de l'autre, emportées par des courants différents. Le contentieux entre elles, s'il est minime sur le plan théologique, est important sur le plan culturel et gigantesque sur le plan affectif. Nous allons regarder cela de plus près aujourd'hui en retraçant les grandes lignes de cet éloignement. Il y a certes des points de contact, mais ils deviennent de plus en plus des occasions de conflit et la haine et le mépris réciproques s'accumulent. Cette histoire a au moins deux aspects, l'un théologique, l'autre politique. Sur le plan théologique d'abord, le Moyen-Âge voit en Occident le développement de la scolastique, un mode de pensée qu'on a injustement décrié en l'accusant de s'appuyer avant tout sur des déductions rationnelles. Ce qui est vrai, c'est que les Occidentaux développent une méthode d'analyse où la raison renouvelée par la foi joue un rôle de premier plan, alors que les Orientaux continuent à se référer à la tradition des pères de l'Église et aux décrets des conciles écuméniques. Le dialogue intellectuel entre Orient et Occident tourne ainsi rapidement au dialogue de sourds. Les scolastiques s'étonnent que les Orientaux se retranchent toujours derrière les textes de la tradition, tandis que ceux-ci s'étonnent de l'usage intempérant selon eux de la raison fait par les scolastiques. « Vous chicanerez, vous brandirez des syllogismes », dit par exemple Simon de Thessalonique, « et moi je montrerai que par une fausse interprétation vous changez le sens de la Sainte Écriture et des Pères, que vous êtes des disciples, non des pères, mais des païens. Moi aussi, si je voulais, j'aurais contre vous, contre vos raisonnements scolastiques, des syllogismes meilleurs que les vôtres. Je n'en veux pas. C'est aux pères et à leurs écrits que je demanderai des preuves. Vous m'opposerez Aristote et Platon, ou bien vos récents docteurs. En face d'eux, je placerai les pêcheurs de Galilée, avec leurs paroles franches, leur sagesse vraie et leur apparente folie. Je rendrai folle votre sagesse en vous disant « Évitez les questions oiseuses. Si quelqu'un vous annonce un évangile autre que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous vous en irez confondu, et moi, je me glorifierai de la gloire de mes pères, car la croix n'a pas été privée de sa force, bien que sa prédication semble folie à quelques-uns. » De son côté, l'Orient continue à développer sa propre théologie sur la base des enseignements des pères de l'Église, en insistant en particulier sur la déification de l'homme par Dieu, un sujet que l'Occident aura toujours bien du mal à comprendre, et c'est dommage. Sur le plan politique, ensuite, les relations entre l'Église et l'État ne sont pas du tout pensées et vécues de la même manière en Orient et en Occident. La divergence remonte, comme nous l'avons dit, au 28e canon de Chalcédoine, voté à la 15e session de ce concile et en l'absence des légats du pape. Ce canon part d'un présupposé qui détermine tout. Il présuppose que l'importance d'un siège épiscopal dépend de la place qu'il occupe sur le plan politique, ce qui ne peut que favoriser l'union entre pouvoir ecclésiastique et pouvoir politique et la dépendance du premier par rapport au second. On voit cela très nettement dans le texte même du canon que je rappelle ici. Citation. Les pères ont accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome les privilèges dont elle jouit parce que cette ville était la ville régnante. Pour le même motif, les 150 évêques présents ont jugé que la nouvelle Rome, Constantinople, honorée de l'Empire et du Sénat, c'est-à-dire dans laquelle l'empereur et le Sénat résident, et jouissant des mêmes privilèges que l'ancienne ville impériale, doit avoir les mêmes avantages dans l'ordre ecclésiastique et être la seconde après elle. Les évêques métropolitains d'Orient seront ordonnés par l'archevêque de Constantinople, après qu'ils auront été élus comme de coutume et sans mésentente, et qu'on aura donné connaissance de ce choix au siège de Constantinople. Fin de citation. On remarquera que ce texte commence par la mention des pères, sans préciser de quel père il s'agit. S'il s'agit des apôtres, il est quand même difficile de croire qu'ils aient accordé une primauté à Rome parce qu'elle était la ville régnante. La raison qui fonde cette primauté, c'est bien plutôt le témoignage rendu au Christ à Rome par les apôtres Pierre et Paul. Le premier rang reconnu à Rome s'enracine dans les personnes des apôtres et non dans le pouvoir politique, comme semble le dire le texte. Et celui-ci est encore plus explicite quand il parle de Constantinople, puisqu'il explique qu'elle a droit au premier rang après Rome parce que l'empereur et le Sénat s'y trouvent. On voit que, dès cette époque, pour les évêques orientaux qui sont à l'origine de ce canon, toute l'autorité de l'Église, même celle de l'Église de Rome, découle de l'empereur et non des apôtres. Il n'est donc pas étonnant que l'Église d'Orient se soit vite accommodée d'une situation de semi-dépendance, alors que l'Église d'Occident luttait bec et ongles contre les tentatives de mainmise venant du pouvoir séculier. L'histoire des deux Églises poursuivit donc son cours, sur des bases très différentes, jusqu'à une période qui leur redonna l'occasion de se rencontrer, mais non de se comprendre, les croisades. C'est en effet la quatrième croisade qui consommera la rupture que les anathèmes de 1054 n'avaient encore fait qu'esquisser.